Il faut que j'essaie de dormir. Je m'allonge sur le sol de la geôle, qui est plus sale que la terre. J'ai appris l'indifférence à la puanteur. Il suffit de penser que rien ne sent mauvais exprès. Je ne sais pas si c'est vrai. Il n'empêche que le raisonnement permet d'accepter les pires remugles. Abandonner son poids à la position couchée m'a toujours sidéré. Si peu que je pèse, quelle délivrance! L'incarnation suppose de trimballer ce bagage de chair avec soi. À mon époque, on apprécie les gens dodus. J'ai renoncé à ce canon. Je suis maigre. On ne peut pas affirmer que l'on est venu pour les pauvres et avoir de l'embonpoint. Madeleine me trouve beau. Elle est bien la seule. Ma propre mère gémit quand elle me voit. « Mange, tu fais pitié !» Je mange le minimum. Porter plus que mes 55 kilos m'essoufflerait. J'ai remarqué que pas mal d'individus refusent de m'écouter à cause de ma maigreur. Dans leurs yeux, je lis « Comment attribuer la moindre sagesse à cet échalas ?» C'est aussi pour cela que j'ai choisi Pierre comme commandeur. Moins inspiré que Jean, moins fidèle que le premier venu, il a cette qualité d'être un colosse. Quand c'est lui qui parle, les gens sont impressionnés. Le comble, c'est que c'est valable pour moi aussi. Je sais pourtant qu'il me reniera, mais il m'inspire une telle confiance. Ce n'est pas uniquement parce qu'il est grand et bien bâti. J'adore le voir manger. Il ne chipote pas, il empoigne les aliments et les dévore sans minauder, avec la rude jouissance des braves. Il boit à même le broc qu'il vide d'un trait. Il rote et il s'essuie la bouche du revers de sa main puissante. Il n'y met aucune pause. Il n'a pas remarqué que d'autres mangeaient différemment. On ne peut que l'aimer. Jean, lui, mange comme moi. Je ne sais pas si sa parcimonie vise à imiter la mienne. Le fait est que cela tient l'affection à distance. Quelle étrange espèce que la nôtre. Rien d'humain ne m'est étranger. À table, je dois m'interdire de déclarer à Jean « Vas-y, bouffe, tu nous embêtes avec tes manières. » C'est d'autant plus absurde que ces façons m'appartiennent également. Pour que je puisse aimer Jean, il faut quitter la table. Lorsqu'il marche à côté de moi et m'écoute, je l'aime. On m'a assuré que j'écoute bien. Je ne sais pas quel effet cela produit d'être écouté par moi. Je sais que l'écoute de Jean est amour et me bouleverse. Quand je parle à Pierre, il ouvre grand les yeux et m'écoute pendant une minute. Ensuite, je vois son attention diminuer. Ce n'est pas sa faute. Il ne se rend pas compte. Son regard bouge à la recherche d'un lieu où se poser. Dès que j'adresse la parole à Jean, il baisse légèrement les paupières comme s'il savait que mes confidences allaient l'émouvoir au point de le troubler. Quand j'ai fini de lui parler, il garde le silence un certain temps et puis il relève vers moi ses yeux brillants. Madeleine aussi m'écoute à ce degré. Elle m'éblouit moins, pour un motif injuste. À mon époque, on enseigne aux femmes à écouter ainsi. Pour autant, rares sont celles qui écoutent si bien. Comme j'aimerais passer cette dernière nuit avec elle. Elle disait « Dormons d'amour fou ». Ensuite, elle se blottissait en cuillère contre moi et s'endormait aussitôt. Je n'ai jamais eu un très bon sommeil, alors c'était comme si elle dormait pour nous deux. Grâce à elle, j'ai su que dormir était un acte d'amour. Quand nous dormions ainsi, nos âmes se mêlaient davantage encore qu'en faisant l'amour. C'était une longue disparition qui nous emportait ensemble. Lorsque je sombrais enfin, j'avais la sensation exquise d'un naufrage. L'illusion se confirmait dans le réveil. J'avais tellement perdu mes repères que notre couche était forcément le rivage où nous nous étions échoués et où nous étions stupéfaits de nous retrouver vivants. Quelle gratitude de s'éveiller sur la plage, auprès de l'aimé. L'impression d'être des rescapés était si forte que le jour naissant se devait d'apporter son lot de joie. La première étreinte, le premier mot d'amour, la première gorgée. S'il y avait un fleuve dans les environs, Madeleine m'invitait à nous y tremper. « Il n'y a pas mieux pour commencer le matin, » disait-elle. Rien de tel, en effet, pour laver les miasmes d'une trop bonne nuit. « Profites-en pour te désaltérer, » ajoutait-elle, « car je n'aurai rien de mieux à t'offrir. » Nous n'avons jamais eu de quoi prendre une collation matinale. L'idée de manger au seau du lit m'a toujours levé le cœur. J'ai peine à croire que cela devienne un usage. Mais quelques gorgées d'eau venaient à point pour rafraîchir la laine. Ces pensées délicieuses n'ont aucun pouvoir hypnagogique. Si je veux m'endormir pour de bon, je dois m'efforcer d'éprouver de l'ennui. Il faut une volonté de faire pour s'ennuyer à dessein. Hélas, est-ce l'imminence de la mort? Rien ne me paraît ennuyeux. Même les discours des pharisiens, qui me faisaient bâiller aux corneilles, me semblent comiques à présent. J'essaie de me rappeler les efforts de Joseph, qui tentait de m'enseigner l'art du bois. Comme j'étais mauvais élève. Et l'air déconcerté de Joseph, qui ne se fâchait jamais. Christ signifie « doux ». L'ironie a voulu que mes parents humains soient mille fois plus doux que moi. Ils s'étaient trouvés. Des êtres d'une bonté pareille, c'est décourageant. Je vois clair dans les cœurs. Je sais quand quelqu'un est bon par effort. C'est d'ailleurs une attitude qui fut souvent la mienne. Joseph était bon par nature. Je me tenais à côté de lui quand il est mort. Il n'a même pas maudit le stupide accident qui lui a coûté la vie. Il m'a souri et a dit « Prends garde que cela ne t'arrive aussi. » Et il s'est éteint. Non, Joseph, je ne mourrai pas en tombant d'un toit. Maman est arrivée trop tard. Il n'a pas souffert, ai-je dit. Elle a eu un geste tendre pour lui caresser le visage. Mes parents n'étaient pas amoureux l'un de l'autre. Mais ils s'aimaient beaucoup. Ma mère est bien meilleure que moi, elle aussi. Le mal lui est étranger, au point qu'elle ne le reconnaît pas quand elle le croise. Je lui envie cette ignorance. Le mal ne m'est pas étranger. Afin que je puisse l'identifier chez autrui, il était indispensable que j'en sois pourvu. Je ne le déplore pas. S'il n'y avait pas eu en moi cette trace sombre, je n'aurais jamais pu tomber amoureux. L'état amoureux ne guette pas les êtres étrangers au mal. Non qu'il y ait quoi que ce soit de mal dans cet état, mais il faut, pour le connaître, receler les gouffres qui permettront l'apparition d'un si profond vertige. Cela ne signifie pas que je sois un mauvais homme, ni que Madeleine soit une mauvaise femme. La trace sombre était chez nous, en repos. Plus en Madeleine qu'en moi, bien sûr. Ce n'est pas elle qui aurait piqué une colère face aux marchands du temple, même si la cause en était juste. Quel souvenir affreux que cette colère! La sensation d'un venin qui se répandait dans mon sang et qui m'ordonnait de jeter ces gens dehors en criant. J'ai détesté cela. Par bonheur, en ce moment, je n'éprouve rien de comparable. Même au procès, quand j'ai assisté à ces témoignages répugnants, la colère ne s'est pas réveillée. L'indignation est un feu différent qui ne cause pas cette souffrance abominable. Si j'ai réussi à taire mon mépris, c'est parce que, contrairement à la colère, il n'est pas de nature explosive. Jésus, ce n'est pas comme ça que tu arriveras à dormir. Tu n'as aucune volonté. Je me réveille. Il m'a donc été donné de sombrer. C'est une grâce. Je remercie Dieu tout en pensant que c'est un comble de lui dire merci un jour pareil. Le fait est là. J'ai dormi. Dans mes veines, je sens couler la douceur du repos. Il suffit de quelques minutes de sommeil pour éprouver cette volupté. Je la savoure avec la certitude que c'est la dernière fois. Je ne me réveillerai plus. Un poète, dont je ne connais pas le nom, dira dans l'avenir « Tout le plaisir des jours est en leur matinée. » C'est aussi mon avis. J'aime le matin. Il y a une force inexorable en cette heure du jour. Même si le pire a eu lieu la veille, il y a une pureté matinale. Je me sens propre. Je ne le suis pas. Mon âme est propre ce matin. Le mépris que j'ai ressenti hier n'existe plus. Je ne voudrais pas me réjouir trop vite, et pourtant, j'ai la brusque conviction que je mourrai sans haine. J'espère ne pas me tromper. » Un ultime pipi dans un coin de la geôle, je me recouche, et il se produit un miracle. Il pleut. Cette pluie n'est pas de saison. Je me prends à espérer qu'elle dure. Il faudrait annuler le spectacle. Une crucifixion sous la pluie serait vouée à l'échec. Le public la déserterait. Les Romains ont besoin que leur supplice attire les foules. Sinon, ils ont l'impression d'une désapprobation. Pour eux, le peuple veut du divertissement et se fiche des coteries. Le mauvais temps ignore les circonstances. Mais Rome a des oreilles qui vont loin. Crucifier 3 hommes sans que la plèbe vienne en masse serait perçu comme un camouflet. J'ai toujours aimé être à l'abri tandis que la pluie redouble. C'est une sensation merveilleuse. On l'associe un peu sottement à la sérénité. En vérité, c'est une situation de plaisir. Le bruit de la pluie exige un toit comme caisse de résonance. Être sous ce toit, c'est la meilleure place pour apprécier le concert. Partition délicieuse, subtilement changeante, rhapsodique, sans esbroufe. Toute pluie tient de la bénédiction. Elvire au déluge. J'imagine un autre destin. Les autorités fuient la montée des eaux. On me relâche. Je retourne dans mes provinces. J'épouse Madeleine. Nous menons la vie simple des gens ordinaires. Charpentier par trop médiocre, je deviens berger. Nous préparons du fromage avec le lait des brebis. Chaque soir, nos enfants s'en délectent et grandissent comme des plantes. Nous vieillissons heureux. Suis-je tenté ? Oui. Plus jeune, je me réjouissais d'être élu. À présent, je n'ai plus cette faim. Elle est rassasiée. Je préférerais rejoindre la douceur de l'anonymat, ce que l'on nomme à tort la banalité. Rien de plus extraordinaire pourtant que la vie commune. J'aime le quotidien. Sa répétition permet d'approfondir les éblouissements du jour et de la nuit. Manger le pain sortant du four, marcher pieds nus sur la terre encore imprégnée de rosée, respirer à plein poumon, se coucher le long de la femme aimée. Comment peut-on vouloir autre chose? Cette vie-là aussi se termine par la mort. Je suppose néanmoins que mourir est très différent quand c'est l'œuvre de l'âge. On s'éteint avec les siens. Cela doit ressembler à un endormissement. Si je pouvais échapper à la violence annoncée, je ne demanderais rien de mieux. La pluie s'arrête. L'hypothèse exquise s'achève. Tout s'accomplira. Accepte, me souffle à l'intérieur de ma tête une voix bienveillante. Un sage d'Asie laisse entendre que l'espoir et la peur sont l'envers et l'endroit d'un même sentiment, et que pour ce motif, il faut renoncer aux deux. Cela fait sens. J'ai éprouvé l'espérance en vain, et à présent ma terreur a grandi. Cependant, la parole pour laquelle je vais mourir ne condamnera pas l'espoir. Peut-être est-ce une chimère, mais l'amour dont je ruisselle contient une espérance sans contrepartie de peur. Il n'empêche qu'il va falloir endurer cette souffrance infinie. Accepte. Ai-je le choix ? J'accepte, afin d'avoir moins mal.